Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous et bonne année. Je souhaite à tous une heureuse année 2016. Alors, nous étions quittés sur le principe de proportionnalité et sur la jurisprudence de la Cour de justice visant à affirmer sa primauté et la primauté du droit de l'ordre juridique européen sur les ordres juridiques nationaux, y compris sur leurs dispositions constitutionnelles. Alors, c'est un point très important à comprendre, c'est pourquoi, bien qu'il ne paraisse pas directement concerner le droit social, je m'y attarde, car c'est le point d'articulation qui a permis ensuite les développements sur lesquels nous reviendrons en matière sociale, c'est-à-dire l'affirmation par la Cour de justice, qui est en réalité l'organe central et le plus important de la dynamique juridique européenne, beaucoup plus que le Conseil ou la Commission. Donc les choix qu'elle a fait très tôt d'affirmer cette primauté de l'ordre juridique européen n'ont dévoilé leurs conséquences que très lentement. La prise de conscience, au fond, de cette dynamique d'imposition est relativement récente. Et en réalité, ça consistait pour la Cour à considérer le traité de Rome, qui était un traité international. Nous verrons que les juridictions françaises continuent de le qualifier de traité international, comme un texte à valeur constitutionnelle à l'échelle continentale. Et le problème venant de ce que ce texte à valeur constitutionnelle ne constitutionnalise que des libertés économiques. C'est ce qui va prendre, évidemment, à revers toutes les constructions sociales. Le projet de traité, justement, constitutionnel de 2005, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, et des débats très intenses auxquels il a pu donner lieu dans le moindre café en France où ce traité avait été distribué, ce projet prévoyait de consacrer explicitement la primauté de l'ordre juridique européen sur les ordres nationaux. Et vous le savez, les référendums français et néerlandais ont conduit à l'échec de ce projet de traité, ce qui a conduit les gouvernements à le reprendre sous une autre forme, selon une recette familière à l'Union européenne: quand les gens ne votent pas dans le bon sens, on recommence. Là, on n'a pas refait voter, mais on s'est entendu sans nouvelle consultation des peuples récalcitrants. Mais dans ce texte, on n'a pas repris l'affirmation de la primauté. Toutefois, selon une méthode de contournement de la démocratie qui est devenue habituelle dans le fonctionnement de l'Union, ce traité est complété par une annexe 17. Alors, ce traité est un objet monstrueux, enfin, ceux d'entre vous qui... Enfin, allez le lire, d'ailleurs. Et il y a des annexes. Et cette annexe 17 présente cette primauté comme un principe fondamental du droit de l'Union. Alors, c'est le texte que vous avez sous les yeux, c'est une déclaration relative à la primauté qui joint un avis du service juridique du Conseil. C'est quelque chose d'un peu étrange dans un traité, donc c'est un avis du service juridique du Conseil de l'Europe qui nous dit que le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le traité de Lisbonne ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni de la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. Autrement dit, quels que soient les termes du traité, ce que l'avis du service juridique du Conseil est que ce qui prime, c'est la jurisprudence constante de la Cour de justice, et comme cette Cour de justice a fait de la primauté un principe, ce principe doit être considéré comme consacré par le traité, bien que le traité ne le consacre pas, donc on le met dans l'annexe. Vous voyez un peu le genre de montage auquel on peut procéder. Alors, ça veut dire que le principe de primauté ayant été évacué par la porte de la lettre des traités, on s'est efforcé de le faire revenir par la fenêtre de cette annexe qui consacrerait la jurisprudence de la Cour et qui pourrait ainsi satisfaire la prétention de celle-ci d'être reconnue comme une sorte de Cour suprême, parce qu'en fait c'est comme ceci qu'elle se considère, comme l'équivalent de la Cour suprême aux États-Unis, un juge du dernier mot dont les décisions devraient s'imposer sur un mode fédéral à toutes les cours supérieures nationales. C'est certainement la doctrine de la Cour. Et encore une fois, ça pourrait avoir une certaine cohérence si elle était gardienne d'un texte qui était un texte de nature constitutionnelle, comme c'est le cas de la Cour suprême américaine, c'est-à-dire qui tienne en compte toutes les dimensions de la vie sociale et pas simplement les problèmes d'harmonisation économique. Quoi qu'il en soit, ce procédé de repasser par l'annexe pour refourguer, si vous me permettez cette expression, la primauté, n'a pas trouvé grâce aux yeux de la Cour constitutionnelle allemande, le Bundesverfassungsgericht, qui, dans sa décision extrêmement importante, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, sa décision traité de Lisbonne, a écarté toute idée d'une primauté absolue du droit communautaire sur l'ordre juridique allemand. Et elle le fait dans des termes qui sont sans ambiguïté. La République fédérale d'Allemagne ne reconnaît pas une primauté absolue de la validité du droit de l'Union, car ça soulèverait des objections du point de vue du droit constitutionnel. L'objection, j'y reviendrai, c'est que ce qui fonde en réalité les prérogatives de l'Union, c'est le pouvoir de délégation des différents États membres, et ces pouvoirs, ils le tiennent d'une base constitutionnelle. Donc, ce qu'on trouve à la base de l'ordre juridique, c'est la Constitution. Donc ces États ne peuvent pas donner plus de pouvoir que ce qu'ils tiennent eux-mêmes de leur Constitution. C'est ça le raisonnement de la Cour. L'allégation, alors vous voyez le terme allégation, ça sens a presque sa juridiction pénale, selon laquelle, avec l'approbation du traité de Lisbonne, la primauté absolue, entre guillemets, prévue au traité constitutionnel, qui a échoué, donc le juge allemand rappelle, vous avez essayé de nous le faire passer dans le traité de Lisbonne, mais ça n'a pas marché. Et là, vous essayez de nous le redonner. Ça ferait désormais sur le fond partie du contenu du traité et que serait en définitive reconnue illicitement, donc on ne peut pas être plus clair, une primauté de validité comme celle dans un État fédéral, allant jusqu'à l'abrogation de dispositions contraires du droit constitutionnel des États membres, ceci n'est pas pertinent. Bon. Alors, il en va de même de la supposition selon laquelle, en raison des compétences nouvelles dans tous les domaines, le respect du principe d'attribution par l'Union et des effets juridiques qui en découlent en Allemagne ne pourrait plus être contrôlé par la Cour constitutionnelle fédérale et qu'il ne serait plus possible de préserver la substance de l'identité constitutionnelle et de la protection allemande des droits fondamentaux. Ce qui est important dans cet attendu, c'est la notion d'identité constitutionnelle. Autrement dit, le juge constitutionnel allemand dit la prétention de nous enlever notre position de gardien ultime de l'identité constitutionnelle allemande est infondée. Donc la rédaction ici est on ne peut plus ferme, pour ne pas dire brutale, et révèle un conflit frontal avec la Cour de justice de l'Union et avec les services juridiques. Donc, si on veut résumer la position du Bundesverfassungsgericht, c'est en trois points. Premier point, il ne peut pas être question de primauté absolue puisque le gouvernement allemand est tenu par sa base constitutionnelle et ne peut donc consentir une primauté du droit que dans les limites fixées par la Constitution telle qu'interprétée par le juge constitutionnel allemand. Autrement dit, c'est moi, juge constitutionnel, qui suis le gardien et qui ai le dernier mot quant à la définition de ces limites par ce qu'on appelle un contrôle ultra vires. C'est au-delà des forces, pour les latinistes. C'est-à-dire, on va voir, est-ce que l'Union se comporte en allant au-delà des forces qu'elle tient des textes qui l'ont fondée. Deuxième point de ce raisonnement, c'est que toute autre interprétation serait frappée d'illicéité au regard du droit européen lui-même, puisqu'elle reviendrait à mettre en œuvre un principe dont l'inscription dans le traité a échoué. Et troisième point, la Cour constitutionnelle fédérale conserve ce pouvoir du dernier mot pour juger de toute atteinte à l'identité constitutionnelle et aux droits fondamentaux en Allemagne. Alors, C'est une décision très solidement argumentée qui a eu des effets politiques assez importants, même si dans la dernière période, nous le verrons, enfin si nous avons le temps, en matière de compétences de la Banque Centrale Européenne, le juge constitutionnel allemand s'est montré un peu plus prudent. Un peu plus hésitant à empiéter ce que le gouvernement allemand considère comme relevant plutôt de ses compétences politiques. Alors, quoique de façon moins solidement argumentée, d'autres cours constitutionnelles ont aussi refusé de se plier à l'hégémonie de la Cour de Luxembourg. Ainsi, dans sa décision relative au projet de traité constitutionnel européen, le Conseil constitutionnel français lui-même a réaffirmé que ce traité conservait le caractère d'un traité international et que sa dénomination de traité constitutionnel serait sans incidence sur l'existence de la Constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne. Bon. La formule demeure un peu ambiguë, nous le verrons. Selon le Conseil, l'ordre juridique communautaire est, je cite, le Conseil constitutionnel français, intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international. Alors, pour justifier cette position qui est en réalité assez ambiguë du droit européen, qui ne serait ni, qui serait à la fois supérieur au droit interne, mais pas assimilable au droit international, mais pas, pour justifier donc cette position ambiguë, du droit européen entre un ordre juridique interne et un ordre juridique international, le Conseil se réfère à l'article 88.1 de la Constitution française, dont la rédaction actuelle est la suivante. La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union et du traité sur le fonctionnement de l'Union tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne. En fait, cet article a d'abord été introduit en 1992 pour tenir compte des objections du Conseil constitutionnel de l'époque à la ratification du traité de Maastricht. Et il s'agit d'une disposition elle-même ambiguë qui fait écho à l'idée d'une limitation volontaire de souveraineté sans toutefois la consacrer explicitement. Bon, la République participe à l'Union. Ça laisse place à des marges d'interprétation assez larges quant à la place respective des ordres juridiques internes et européens. En réalité, sauf à transformer l'Union en un État fédéral, son droit demeure pour l'essentiel soumis aux règles du droit international, en sorte que chaque État membre ne peut lui donner plus de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, que ceux qu'il tire lui-même de sa Constitution. Et cette supériorité de principe de la Constitution a aussi été invoquée par d'autres juges constitutionnels, notamment le tribunal constitutionnel espagnol ou polonais. Donc on serait ainsi tenté de ne pas exagérer la spécificité du droit de l'Union par rapport à d'autres normes internationales. Les difficultés rencontrées surgissent moins de la position hiérarchique de ces normes, parce que on peut dire, enfin, c'est pas sûr que la Cour de Luxembourg admettrait cette proposition, mais qu'elles sont infraconstitutionnelles et supralégislatives, en tout cas c'est le point de vue du Conseil constitutionnel français. Mais la source de la difficulté principale, c'est l'institution à l'échelon européen de juridictions supranationales qui cherchent à affirmer leur imperium sur les juges nationaux. Et nous avons déjà rencontré ce point à propos de la Cour européenne des droits de l'homme, où la question se pose dans des termes assez semblables, et c'est donc sans surprise qu'on le retrouve s'agissant de la Cour de Luxembourg. Alors, dans le cas de l'Union, ça ne veut pas dire que la primauté du droit européen sur le droit interne, y compris sur certaines dispositions de droit constitutionnel, ne soit pas en principe reconnue. Mais il ne s'agit pas d'une primauté absolue. C'est sur le mot « absolu » qu'il y a divergence. En sorte que les juges nationaux se réservent la possibilité de juger si cette ouverture constitutionnelle à l'ordre juridique communautaire met en péril ce qu'on nomme donc aujourd'hui l'identité constitutionnelle nationale. Alors cette notion, nous venons de le voir, est mobilisée par le Bundesverfassungsgericht, qui l'invoque notamment à côté des principes des droits fondamentaux contre toute atteinte aux principes intangibles qui sont visés par la Constitution allemande, dont le principe de démocratie. Donc ça, c'est le raisonnement du juge allemand, disant nous avons un ordre juridique communautaire qui n'a pas de base démocratique, donc moi je suis gardien du fait que cet ordre juridique ne remet pas en cause le principe de la démocratie, qui est un des principes intangibles posés par la Constitution allemande. Alors, cette notion d'identité constitutionnelle, si vous voulez en savoir plus, car elle est aussi mobilisée, enfin, très furtivement, je dirais, par le Conseil constitutionnel français, vous pouvez vous reporter à cet excellent acte de colloque organisé par Mme Burgorg-Larsen en 2011 sur cette notion d'identité constitutionnelle. Donc, après quelques flottements, et beaucoup plus timidement, le Conseil constitutionnel français a donc lui aussi eu recours à cette notion dans sa décision du 27 juillet 2006, qui était une décision relative à la transposition d'une directive sur les droits d'auteur. Alors, cette décision, elle est techniquement un petit peu complexe, donc je ne vais pas... et je n'ai pas le temps de trop m'y arrêter. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le problème qui se posait était de savoir quel était le degré de contrôle que le Conseil constitutionnel acceptait d'exercer sur des lois qui n'étaient rien d'autre que des lois de transposition de directives européennes. Alors, le Conseil raisonne de la façon suivante. Il dit « La transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle. Par conséquent, je n'ai pas en principe à en vérifier la constitutionnalité. Car la transposition d'une directive ne saurait... Mais la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. » Sauf à ce que le constituant y ait consenti. Et par conséquent, le Conseil constitutionnel ne peut déclarer non conforme à l'article 88.1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a objet, pour objet de transposer. Autrement dit, le Conseil constitutionnel dit « je n'exercerai qu'un contrôle extrêmement restreint sur les textes transposant les dispositions du droit européen. » Et ce maintien de la primauté de l'identité constitutionnelle sur le droit de l'Union permet de comprendre pourquoi le Conseil constitutionnel refuse de procéder alors à ce qu'on appelle un contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire un contrôle de conformité aux directives européennes. Des lois qui lui sont déférées. Donc, lorsqu'une loi française est déférée devant le Conseil constitutionnel, il dit « mon job, c'est, si j'ose ainsi m'exprimer, c'est uniquement de vérifier si cette loi est conforme ou non à la Constitution. Mais ce n'est pas à moi de vérifier sa conformité à l'ordre juridique communautaire, puisque le fait de transposer résulte d'une exigence constitutionnelle. Tout ce que je peux faire, c'est éventuellement contrôler qu'il y ait atteinte soit à l'identité constitutionnelle, soit qu'il y ait des dispositions manifestement incompatibles avec la directive qu'on prétend transposer. La force normative du contrôle continue donc d'être fondée sur l'article 55 de la Constitution, celui qui donne force juridique aux traités internationaux dans l'ordre interne et non pas sur l'article 88.1. Ce qui veut dire que le droit de l'Union ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité dont le Conseil est le gardien. Alors, cette position subtile, délicate, parce que vous voyez, ça consiste à dire à la fois j'admets que le droit communautaire puisse avoir une certaine primauté sur le droit constitutionnel, puisque ce droit communautaire est lui-même l'expression d'un pouvoir qui a été délégué aux autorités européennes, et donc je n'exerce qu'un contrôle restreint. Mais je ne reconnais pas une primauté absolue. Alors, cette position qui se veut nuancée a été à l'origine d'un conflit de jurisprudence entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, d'une part, et la Cour de cassation, d'autre part. Ce conflit a porté sur les conséquences à donner à la création de la question prioritaire de constitutionnalité par la loi organique du 10 décembre 2009. Alors, ce qu'on appelle la QPC, donc c'est une nouveauté introduite en 2009 qui permet de remettre en cause devant un juge judiciaire ou administratif la constitutionnalité de la loi dont l'application est demandée par un justiciable. Donc on peut arguer en moyen de défense en disant oui, mais la loi dont vous demandez application est contraire à la Constitution et dans ce cas, il doit y avoir une saisine du Conseil constitutionnel. Cette QPC est régie par une loi organique du 10 décembre 2009, au terme de laquelle, alors c'est là ça a été le nœud du conflit de jurisprudence, en tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Donc, ce que dit ce texte, il dit, imaginons une situation où on fait grief à un texte à la fois de ne pas respecter la Constitution française. Donc on dit il est inapplicable parce qu'il est anticonstitutionnel. Et puis on dit aussi, il a ce second vice, c'est qu'il est contraire au droit européen. Donc on allègue les deux. Et le juge, dans ce cas-là, ce que porte cette disposition, c'est que le juge français doit, par priorité, se tourner vers le Conseil constitutionnel pour demander à vérifier la constitutionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une primauté, c'est pour ça qu'on a parlé de questions prioritaires de constitutionnalité, c'est prioritaire vis-à-vis du contrôle dit de conventionnalité, c'est-à-dire de conformité au droit européen. Alors, c'est cette disposition qui a déclenché un conflit de jurisprudence qui a beaucoup fait réfléchir la doctrine. Et à grands traits, parce que je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais je tiens à vous en donner un peu le parfum de cette affaire, parce que ça vous donne, c'est un exemple de cette guerre des juges qui se généralise. On trouvera d'autres exemples, j'espère la semaine prochaine, j'aurai le temps d'en parler, à l'échelle européenne, qui caractérise cette désarticulation des différents ordres juridiques qu'on a du mal à liés les uns aux autres, et ça suscite donc ce type de conflit particulièrement frappant, puisque ça affecte l'ordre interne. À grands traits, donc, la Cour de cassation a considéré que la priorité ainsi donnée au contrôle de constitutionnalité sur le contrôle de conventionnalité la privait de la possibilité d'exercer ce dernier et donc de saisir la Cour de justice de l'Union d'une éventuelle question préjudicielle. Et donc, en filigrane seulement, le juge judiciaire semble avoir considéré que cette priorité méconnaissait la primauté du droit de l'Union sur le droit interne. Il dit, bon, normalement, le droit de l'Union, c'est plus important que le droit interne. Or, on me demande soumettre les textes au contrôle constitutionnel, et puis je n'aurai pas en fait la possibilité, pour des raisons procédurales, de soulever une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union. Alors cette interprétation a aussitôt été rejetée tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a rappelé que, nonobstant la mention par le traité de Lisbonne du traité de Lisbonne dans l'article 88.1 de la Constitution, que nous avons vu tout à l'heure, le droit de l'Union tirait son autorité de l'article 55 au même titre que les autres engagements internationaux de la France. Et il en résulte que le contrôle de la conformité d'une disposition législative à ses engagements ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge administratif ou judiciaire qui peuvent y procéder à tout moment et recourir en cas de besoin aux mesures conservatoires nécessaires à la protection des droits du justiciable. Alors ça, c'était la bibliographie que je comptais vous donner tout à l'heure. Vous avez les différentes décisions pertinentes sur ce conflit de jurisprudence. Il ne m'appartient pas, dit le Conseil constitutionnel, lorsque je suis saisi en application de l'article 61 ou 61.1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France, qu'ainsi, nonobstant la mention dans la Constitution du traité de Lisbonne, il ne revient pas au Conseil constitutionnel de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations de ce traité. Pour sortir de ce conflit, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la Cour de cassation a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de la loi organique qui a organisé la QPC avec le droit de l'Union. Autrement dit, la Cour de cassation a dit « Monsieur le juge européen, je suis dans une situation impossible parce qu'il y a une loi organique qui va m'empêcher de respecter le droit de l'Union dont vous êtes le gardien. Donc j'aimerais que vous me disiez si cette loi organique est conforme ou non au droit européen. » Alors, la Cour de justice, qui s'est délectée de devoir ainsi trancher les conflits de jurisprudence opposant les différents ordres judiciaires français, parce que le Conseil d'État a opiné dans le même sens que le Conseil constitutionnel, a répondu prudemment que ça dépend. Tout dépend de l'interprétation qu'on fait de la procédure de QPC, parce que c'était délicat pour la Cour de justice de censurer directement une réforme constitutionnelle française. Quand même, c'était un peu. D'un autre côté, c'était une occasion, évidemment, de conforter sa position. Et donc, elle dit, au fond, cette loi organique instituant la QPC, prévoyant une primauté du contrôle de constitutionnalité, ne méconnaîtrait pas le droit de l'Union si on l'interprète dans un sens qui laisse la juridiction nationale libre de prononcer des mesures conservatoires et de saisir à tout moment le juge européen d'un recours préjudiciel. Donc, la réponse prudente du juge européen est de dire « Si ça empêche qu'on se tourne vers moi, le juge européen, pour contrôler la conventionnalité de la loi, à ce moment-là, c'est certainement contraire au droit européen. Mais s'il est possible d'exercer les deux recours, alors ce n'est pas contraire au droit européen. » Ça ouvrait un compromis possible, mais au lieu de se rallier à cette interprétation qui permettrait d'articuler contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a maintenu sa position et décidé, en pareil cas, de laisser inappliquer les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité. Ça, c'est fort, quand même. C'est-à-dire, moi, juge judiciaire français, la loi organique, je m'en bats l'œil, si je puis dire, parce que je dois d'abord faire allégeance au droit européen. Alors, ça a beaucoup ému la doctrine, il y a eu des opinions dans tous les sens, attendu que dans l'hypothèse particulière où le juge est saisi d'une question portant à la fois sur la constitutionnalité et la conventionnalité d'une disposition législative, il appartient donc au juge de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures provisoires ou conservatoires propres à assurer la protection juridictionnelle des droits conférés par l'ordre européen. En cas d'impossibilité de satisfaire à cette exigence, ce qui est l'exigence que rappelait la Cour de Luxembourg comme condition de conformité au droit européen de la loi organique. Comme c'est le cas de la Cour de cassation, devant laquelle la procédure ne permet pas de recourir à de telles mesures. La Cour de cassation dit « moi, je ne peux pas procéder à des mesures conservatoires ». Donc, dans ce cas, je dois me prononcer sur la conformité de la disposition critée au regard du droit de l'Union, en laissant alors inappliquer les dispositions de l'ordonnance 58 modifiée, qui prévoit une priorité d'examen de la question de constitutionnalité. Donc, Cour de cassation dit « bon, primauté du droit européen ». Alors, de son côté, le Conseil constitutionnel a réaffirmé sa position, selon laquelle les lois transposant une directive européenne ne relevaient pas d'un contrôle de constitutionnalité, sauf atteinte portée à l'identité constitutionnelle de la France. Bon, je ne m'étends pas davantage sur ce feuilleton juridique, mon propos étant seulement de vous montrer que l'ébranlement de la hiérarchie des normes qui résulte de la combinaison des ordres juridiques français et européens ouvre le champ d'un nouveau type de conflit de jurisprudence. Ces conflits procèdent de l'enchevêtrement de ces deux ordres juridiques qui confèrent aux juges de nouveaux pouvoirs normatifs, et notamment le pouvoir de laisser inappliquer soit une disposition de la loi française, comme l'a fait en l'espèce la Cour de cassation, soit une disposition de droit européen, comme le ferait le Conseil constitutionnel en cas d'atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. Alors, on a un recul du principe de souveraineté de la loi française, qui était vraiment la clé de voûte de notre ordre juridique, et ce recul est ici particulièrement évident. Ce recul résulte logiquement de l'ouverture de cet ordre national au droit de l'Union. Mais tandis que le Conseil constitutionnel s'efforce de sauver le principe de cette souveraineté en réservant l'hypothèse d'une atteinte à l'identité constitutionnelle, la Cour de cassation se tourne désormais vers la Cour de l'Union européenne comme vers une Cour suprême compétente pour trancher ces divergences d'interprétation avec le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, mieux ou pire, si l'on peut dire. Certaines de ces chambres de la Cour de cassation, comme la chambre sociale dans l'affaire Babylou que j'ai évoquée, font de même pour résister à la jurisprudence de l'Assemblée plénière. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire dans Babylou, où, ressaisie d'une affaire du même type que Babylou, la chambre sociale, il y a quelques mois, au lieu d'appliquer la position de l'Assemblée plénière, a à nouveau saisi la Cour de justice de l'Union parce que l'Assemblée plénière avait désavoué sa position. Alors, on peut y voir l'écho d'une vieille tradition liée au catholicisme institutionnel français, enclin à chercher toujours à Rome, mais aujourd'hui à Bruxelles, le détenteur du dernier mot, autrement dit, l'instance infaillible. C'est un penchant qu'observait déjà Leibniz au XVIIe siècle, mais pour en déplorer les conséquences funestes. La France, écrivait-il, aurait tort de trahir la vérité pour reconnaître l'infaillibilité de Rome, car elle imposerait à la postérité un joug insupportable. En tout cas, le tableau d'ensemble est celui d'une montée du gouvernement des juges, mais aussi donc d'une guerre des juges qui se dispute le droit du dernier mot. Or, ce tableau ne se donne pas seulement à voir au niveau national, mais aussi au niveau européen, comme nous allons le voir maintenant, en examinant successivement la résistance de certaines cours constitutionnelles à l'emprise du droit de l'Union en matière sociale et le conflit entre la Cour de justice de l'Union et la Cour européenne des droits de l'homme. J'espère que nous pourrons achever ce programme d'ici la fin du prochain cours. Donc, nous passons à ce dernier point du cours, pour lequel j'ai choisi un titre latin, quis custodiet ipsos custodes, c'est une formule qui vient des satires de Juvénal et qui pose le problème de savoir qui peut protéger la cité des abus de ceux qui ont mission de la garder. Et cette question, qui peut paraître insoluble, Nous allons voir qu'elle ne reste pas complètement sans réponse dans le cas de l'Union européenne. Si cette question se pose tout particulièrement dans le domaine social, c'est pour des raisons qui tiennent à la fois aux bases juridiques de l'Union et à son évolution politique. Elles tiennent tout d'abord à ces bases juridiques, car, nous l'avons vu, les choix qui ont été faits par le traité de Rome en 1958 ont consisté à construire la communauté européenne comme un grand marché, dont les piliers sont quatre libertés, mais ce n'est pas les quatre libertés du discours de Roosevelt que nous avions étudié l'année dernière, c'est les libertés de circulation des biens, des capitaux, des services et des travailleurs. Quatre libertés donc très différentes de celles du New Deal. Les questions sociales, pensait-on en 1958, devaient en revanche demeurer de la seule compétence des États membres. Donc, il y avait dans l'esprit des auteurs du traité de Rome une claire division du travail entre des traités qui créaient une union, ce qu'on appelait une union douanière, et puis un maintien de la souveraineté des États qui continuaient de s'occuper des questions sociales. Il est vrai que, bien que ces traités soient d'union douanière et donc de contenu essentiellement économique, ils procédaient d'une ambition politique, qui était l'ambition d'en finir avec une histoire sanglante qui avait conduit à tour de rôle chaque pays d'Europe continentale à l'effondrement. Mais cette ambition politique usait d'un détour économique. On pensait que c'est en liant leurs intérêts matériels, en ouvrant leur marché, que les peuples étaient invités à lier leur destin. On aurait pu procéder autrement et partir au contraire du social, pour rapprocher les peuples européens. Cette méthode est celle qu'avait privilégiée notamment le chancelier Bismarck à la fin du XIXe siècle pour promouvoir l'unification d'une Allemagne jusqu'alors divisée en une mosaïque de royaumes. La création des premières assurances sociales par Bismarck en 1884 visait tout à la fois à couper l'herbe sous le pied des socialistes et des revendications syndicales et à fonder une solidarité financière face aux risques sociaux qui transcendait les anciennes appartenances nationales. Le propre de la solidarité, entendu en termes de sécurité sociale, c'est d'avoir une caisse commune. Et donc c'était l'idée, on va se constituer des caisses communes. Donc tous les travailleurs des différents royaumes allemands, ils vont avoir un bien commun qui seront les assurances sociales. Cette histoire a été notamment retracée par Michael Stolice dans un livre qu'il a récemment traduit en anglais sur l'histoire du droit social en Allemagne. J'envisage d'ailleurs d'inviter peut-être Stolice l'année prochaine parce que c'est un des plus grands historiens du droit allemand et je vous informerai si ce projet aboutit. Bon, donc on aurait pu faire comme ça. Mais, en réalité, on a fait autrement. Fidèle à une idée qui remonte aux Lumières, les pères fondateurs voyaient dans le commerce un moyen non seulement de faire circuler des choses, mais aussi de rapprocher les hommes. C'est l'idée du doux commerce qu'on attribue à Montesquieu. Il vaut la peine de retenir la manière, quand même, dont Montesquieu défendait cette idée, puisqu'il opposait les effets bienfaisants de l'esprit de commerce entre les nations et ses possibles effets délétères entre les individus. L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Première idée, c'est la paix entre les nations. Alors, c'est ça que le traité de Rome essaie de mettre en œuvre. Mais on oublie ce que disait ensuite Montesquieu, mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales, les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. Donc il y avait là aussi une nette distinction, déjà chez Montesquieu, entre commerce entre les nations et puis il ne faut pas que ça devienne, au contraire, un principe, disons, constituant à l'intérieur même d'une nation. Et on peut dire que l'esprit des pères fondateurs de l'Union était assez fidèle à cette inspiration. Ils entendaient fonder une union douanière entre les pays sans remettre en cause la diversité des modèles sociaux et des formes de solidarité propres à chacun de ces pays. Il y en avait six, les pays, hein, puis, dont certains étaient quand même petits. Il y avait le Luxembourg parmi les six. Alors, sur les idées politiques qui ont ainsi présidé à la création de la communauté européenne et sur ce qu'il en est advenu, je vous recommande tout spécialement le livre de Perry Anderson, qui a récemment fait l'objet d'une traduction en langue anglaise aux éditions Agon. Vous y trouverez notamment une passionnante description de la trajectoire et des idées de Jean Monnet. Et c'est très éclairant sur les problèmes actuels. Donc, ainsi conçu, la construction européenne était riche d'une double promesse. En premier lieu, la promesse politique d'une réunification de l'Europe, dont les deux guerres mondiales avaient montré l'importance vitale pour le maintien de la paix. Et en second lieu, la promesse économique de, je cite le traité, l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre permettant leur égalisation dans le progrès. C'est l'article 117 du traité de Rome qui est repris à peu près à l'identique dans l'article 151 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, aujourd'hui en vigueur. Alors, c'est repris, je dois avoir mis le texte, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, on a toujours dans l'article 151 la formule de l'amélioration et de l'égalisation dans le progrès, mais avec des bémols sur la nécessité de maintenir la compétitivité de l'Union européenne. Au fondement même de l'Union européenne, il y avait donc la conviction que le progrès social serait un résultat spontané de l'institution du marché commun, en sorte qu'il était inutile de se doter de règles sociales et fiscales communes. Cette thèse, parce qu'il y a eu un débat, j'en dis juste un mot, il y a eu un débat avant, au moment de la négociation du traité de Rome, sur le fait de savoir s'il fallait y mettre le social ou pas. La thèse selon laquelle il fallait le cantonner à l'économique et que ça aurait un effet d'entraînement, une dynamique d'amélioration sociale spontanée, a été défendue notamment par le Suédois Bertil Ohlin, qui est un homme politique et économiste suédois. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que viennent faire les Suédois à l'origine de la communauté de l'Europe des Six? Eh bien, c'est parce qu'il présidait le comité d'experts que le Bureau international du travail avait réuni pour se prononcer sur les aspects sociaux de la future communauté européenne. Et donc, le Bureau international du travail, qui avait toute son autorité morale sur les questions sociales, réunit ce groupe, et ce groupe dit « Non, il ne faut pas mettre du social dans votre projet, il faut le cantonner à l'économie, et le social vous sera donné par surcroît, comme la nourriture dans l'Évangile aux petits oiseaux. » Alors, deux arguments étaient avancés en ce sens. Le premier était qu'une uniformité de ces législations ne pourrait se faire que par un alignement sur les législations les plus protectrices. On ne pouvait pas imaginer de baisser le niveau de protection pour vendre, si je puis dire, le projet européen aux populations. Et que ça entraverait donc la compétitivité internationale des entreprises européennes, parce qu'il y aurait une montée générale du niveau de la protection sociale. Ça, c'était le premier argument économique. Le second était que le fonctionnement du marché intérieur entraînerait spontanément donc une égalisation dans le progrès. Et c'est donc cet acte de foi qui figure dans le traité. C'était Bertil Ohlin était un social-démocrate suédois. Il n'appartient pas à ces catégories des intégristes du marché qui vont ensuite apparaître. Alors, cette exclusion de principe des politiques sociales communes avait soulevé certaines réticences, notamment celle du président du Conseil français, qui était M. Guy Mollet, et leader du Parti socialiste à l'époque. Mollet s'inquiétait déjà, donc c'était la SFIO, c'était l'ancêtre de l'actuel Parti socialiste, et il s'inquiétait déjà du désavantage compétitif qui pourrait résulter d'un supposé haut niveau de protection sociale en France, et notamment du niveau du salaire des femmes. Mollet considérait que les femmes étaient particulièrement bien traitées en France et que ce serait un handicap pour les entreprises françaises. Mais il y a eu une négociation, comme toute l'histoire de l'Union européenne est tissée de ça, et au fond, il a lâché les femmes, si j'ose ainsi m'exprimer, en échange d'une politique agricole commune. Il ne les a pas lâchés tout à fait, parce qu'il y a quand même eu l'introduction, et c'est un des seuls textes qui portent une politique sociale dans le traité de Rome, d'un article 119 qui vise à l'égalité des hommes et des femmes sur le marché du travail. C'est la raison pour laquelle, puisque cette base de texte existe, la non-discrimination entre hommes et femmes a pris une telle importance dans la jurisprudence ensuite de la Cour de Luxembourg. C'est dû à Guy Mollet. Mais enfin, il a cédé sur le fait qu'il n'y aurait pas d'ambition sociale générale, il n'y aurait pas de politique sociale européenne. Voilà. Rétrospectivement, nous savons que ces choix ont eu une importance considérable dans la dynamique juridique européenne. Ils ont été faits de bonne foi, la question n'est pas là, mais ils reposaient sur une opposition entre l'économique, qui deviendrait commun, et le social, qui resterait une affaire domestique. Et cette opposition est purement dogmatique. Elle continue, elle est plus forte que jamais aujourd'hui. On nous assène chaque jour que le social vient par surcroît, il faut d'abord s'occuper de l'économique et ensuite le social. Cette opposition est purement dogmatique et ne rend pas compte de la complexité du réel. Si vous vous demandez, est-ce que vous pouvez imaginer une relation économique entre des êtres humains qui ne soit pas aussi une relation sociale? C'est très difficile. La seule à laquelle on pourrait penser, c'est peut-être ce qui se passe entre les ordinateurs à haute fréquence dans les salles de marché. Là, il n'y a pas de relation sociale. Mais autrement, même si vous offrez des fleurs à votre bien-aimé, il faut les payer. Il n'y a qu'à se demander si un contrat de travail est une relation économique ou une relation sociale pour s'apercevoir de l'absurdité de la question, puisque une relation de travail est indissolublement une relation économique et une relation sociale. Mais c'est vrai aussi du couple, si vous reprenez le code civil, l'institution du ménage, vous avez une partie des relations patrimoniales et des relations non patrimoniales. Donc cette distinction de l'économique et du social est une pure construction. D'ailleurs, si vous discutez avec ce que j'ai eu l'occasion de faire avec des Japonais, ils ont importé ça. Pour eux, c'était un non-sens a priori. Tout ce qui relève du don a une valeur économique. Et donc ce qu'on appelle les modèles nationaux, par exemple le modèle allemand, ou le modèle suédois, ou le modèle français, ou le modèle italien, sont indissociablement économiques et sociaux. C'est une manière de travailler, de coopérer, qui est indissolublement économique et sociale. En fait, ça relève de la culture, au sens que nous avons défini à propos de la diversité culturelle. Dès lors qu'elle est parfaitement artificielle, la séparation de l'économique et du social posée par le traité de Rome exposait la construction européenne à un retour du principe de réalité, qui pouvait prendre deux formes. Soit celle suggérée par le traité lui-même de l'émergence progressive d'un modèle social européen qui aurait été porté par l'égalisation dans le progrès. C'était quand même l'horizon mental, je pense, d'hommes comme Olin ou Guy Mollet. Soit au contraire celle d'une destruction progressive des solidarités nationales sans construction corrélative de solidarité européenne. C'est-à-dire quand cette dichotomie établie entre l'économique et le social pouvait avoir l'effet inverse, c'est celle d'un délabrement progressif des modèles sociaux nationaux. Et ce scénario, c'est le scénario actuel qu'avec beaucoup de clairvoyance, le sociologue allemand Fritz Scharpf a décrit dès la fin des années 90. C'est un livre très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est ce qu'il a appelé un processus d'intégration. En plus, il a une bonne tête, il a une barbe, tout ça, c'est un homme sympathique. Je défends les barbus en ce moment. Il a décrit dès la fin des années 90 un processus d'intégration négative dans cet ouvrage paru aux presses de sciences politiques sous le titre « Gouverner l'Europe ». Au fond, sa thèse est simple, c'est de dire on a mis sur pied une mécanique, puisqu'il y a des bases pour une sorte de constitution économique avec la Cour européenne qui les garde, qui est de nature à soumettre et à défaire toute espèce de législation par une interprétation de plus en plus extensive des exigences des quatre libertés économiques, toutes les constructions sociales qui peuvent être faites dans les différents États, mais les bases n'existent pas pour créer à un niveau supranational la possibilité de l'émergence d'un modèle social européen. Et donc, comme on le sait, les opportunités qu'on pouvait encore penser à la fin du siècle dernier être ouvertes pour une Europe sociale ont toutes été manquées et l'Union européenne a roulé sur sa plus forte pente, celle d'une intégration négative, pour reprendre donc le concept de Fritz Scharf, qui démantèle les solidarités nationales au nom des libertés économiques, mais ne parvient pas à édifier un projet politique et social commun qui fédérerait les peuples autour de solidarités nouvelles. Alors, durant les 20 dernières années, trois facteurs se sont conjugués dans le sens de cette désintégration, de ce que je n'hésite pas à appeler une désintégration de l'idée d'Europe sociale. Ces trois facteurs sont les suivants, on va les passer en revue. Premièrement, l'élargissement aux anciens pays communistes. Deuxièmement, l'instauration de l'euro. Et troisièmement, la crise financière internationale. Alors, commençons par le premier facteur, celui de ce qu'on appelait l'élargissement, ou de ce qu'on a appelé aussi à l'époque la Nouvelle Europe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression, la Nouvelle Europe, au moment de l'entrée donc, des anciens pays communistes dans l'Union européenne. Ce moment historique aurait pu être un moment de refondation de l'Europe sur des bases sociales. Il y a un ratage historique où la France porte une assez lourde responsabilité. Parce que dans la fin des années 90, enfin dans le courant des années 90, à plusieurs reprises, les Allemands sont tournés vers les Français en disant « Écoutez, si on s'engage dans ce processus d'élargissement, on ne peut pas le faire avec les instruments de gouvernance hérités du traité de Rome. Il faut repenser politiquement l'Union européenne avant de procéder à cette ouverture. » Et à l'époque, la France était en cohabitation, enfin, elle était centrée sur ses enjeux de nombriliques nationaux. Donc, les différentes initiatives, Fischer et Lammers, il y a eu successivement du nom de deux ministres allemands qui avaient proposé des plans, et ça a été un silence assourdissant. Donc, du coup, cet élargissement s'est fait sur le mode de l'élargissement, justement, c'est-à-dire parce qu'on pouvait le penser de deux façons. On aurait pu le penser sur le mode d'une réunification de l'Allemagne, c'est-à-dire de l'Europe. Donc on refait un pacte fondateur en disant nous allons payer pour la remise à niveau des pays anciennement communistes et en échange, ils doivent accepter un certain nombre de disciplines, à la fois diplomatiques, sociales, puisqu'ils font partie d'une communauté. Ça supposait donc de repenser complètement un nouveau traité et qui aurait pu être un exemple en vraie grandeur de solidarité entre pays plus riches et pays moins riches, allant vraiment dans le sens d'une égalisation dans le progrès. Mais ça supposait de réinsérer la dimension sociale. Ceci n'ayant pas été fait, on a élargi. Élargi, ça veut dire qu'on a étendu ce qu'on appelait l'acquis communautaire. Donc on a dit on va injecter dans les ordres juridiques de ces pays, qui étaient en plus d'un nationalisme ombrageux, parce qu'ils sortaient quand même d'années de domination soviétique, etc. Donc il y a des escouades de technocrates sont venus injecter dans leur droit l'acquis communautaire. Et puis ensuite, on leur dit ce dans quoi vous êtes rentrés, c'est dans un marché dont la constitution est de type économique, donc il faut jouer cette règle. Et cette règle, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, en plus, culturellement, ces pays étaient assez peu enclin à porter du crédit aux politiques sociales. Et comme l'a remarqué Todorov, le communisme réel, qui était celui de tous les passe-droits où tout est négociable, dit Todorov, préparé assez bien, en réalité, à ce qui s'est passé, c'est-à-dire à une union politique entre cette nouvelle Europe et puis la doctrine britannique qui, depuis l'origine, était hostile à toute idée d'Europe sociale. Donc, ils se sont très bien entendus, à la fois sur le plan international dans la guerre d'Irak, comme vous le savez, et puis aussi sur le plan économique, pour mettre un coup d'arrêt à toute espèce de développement supplémentaire de projets d'Europe sociale. Si bien que, alors qu'à la fin des années 90, l'Europe se voulait encore sociale et que la position anglaise était très minoritaire en son sein, les choses ont changé. Et ce tournant est particulièrement visible dans la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Je l'ai dit, cette Cour a joué dès l'origine un rôle aussi important que méconnu en interprétant le traité de Rome, non pas comme un traité international, mais comme une source de nature constitutionnelle ayant la primauté sur les ordres nationaux. Ça s'est fait dès les années 60 et c'est très déterminant sur la suite. Je vous conseille sur cette importance du rôle de la Cour un long article que vient de publier Dieter Grimm. Ça s'écrit comme les contes de Grimm, enfin c'est pas du tout un conteur, c'était l'un des membres les plus éminents du tribunal constitutionnel allemand au moment où il a rendu la décision traité de Lisbonne. C'est son est même, sans vouloir trop trahir de secret, l'un des artisans intellectuels. Et il vient de publier dans la revue Le Débat du mois de décembre un long article sur ce qui s'intitule L'Europe par le droit jusqu'où les limites de la dépolitisation. Bon, je vous le conseille parce que ça vous donnera une idée du type de débat qui a lieu actuellement en Allemagne sur ce sujet et au plus haut niveau de la réflexion juridique. Donc, la Cour, dès le début, avait voulu s'affirmer, mais elle était demeurée, comme juridiction suprême, mais elle était demeurée prudente dans le domaine social. Elle était consciente du fait que sa légitimité était fragile, mais l'élargissement a modifié ses équilibres internes. En effet, si vous prenez les différentes institutions européennes, elles sont toutes soumises à la règle, sauf la Cour, de la pondération de la représentation des États en fonction de du volume de leur population. Donc les nouveaux entrants pèsent un poids relativement petit dans des institutions comme la Commission ou au Parlement. En revanche, à la Cour européenne, la règle, c'est un juge par État. Et cette Cour, c'est elle qui fait le droit à partir du moment où elle s'est affirmée comme Cour suprême, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc les anciens pays communistes ont parfaitement compris l'importance politique de la Cour qui échappe largement aux opinions des pays de l'Europe de l'Ouest. Et ils ont investi la Cour. Et ça a donné lieu à une alliance, sous l'égide de la Nouvelle Europe, sur une jurisprudence nouvelle, beaucoup plus vigoureuse, et qui se départit de la prudence dont la Cour avait fait preuve jusqu'alors, et qui, du coup, se détourne radicalement de l'objectif d'égalisation dans le progrès pour tout à fait au contraire promouvoir la mise en compétition des travailleurs la mise en compétition sur la base du moins-disant social. C'était en effet l'intérêt de ces pays. À partir du moment où il n'y a pas eu ce pacte refondateur qui aurait lié une aide économique importante avec des disciplines sociales, ils disent on rentre dans un système où la loi, c'est la compétition généralisée. Or, quel est notre avantage compétitif premier? C'est que nous avons une main-d'œuvre abondante, qualifiée et beaucoup moins chère que les pays de l'Ouest. Donc, nous allons jouer cette carte au maximum. Et on va la retrouver, par exemple, dans le conflit qui me paraît si intéressant des éleveurs de porcs breton. Vous savez qu'une des raisons, c'est que les entreprises allemandes ont pu faire appel, grâce au droit européen du détachement, à des travailleurs venant de ces pays qui sont payés à des tarifs qui sont vis-à-vis desquels il n'y a aucune compétition possible dans le cadre du droit du travail français, enfin dans le droit du travail tel qu'il est, puisqu'il est promis à une cure d'amaigrissement considérable. Donc il y a eu un changement d'orientation, de politique jurisprudentielle de la Cour qui, dans le domaine social, est vraiment devenue, on peut dire que hostile à l'idée d'Europe sociale. Je vous donne quelques exemples. Elle a exempté les entreprises du respect des minima de salaire fixés par les conventions collectives. Elle a exempté des lois indexant les salaires sur le coût de la vie. Elle a écarté les présomptions de salariat posées par les droits des pays étrangers où elles opèrent. Elle a condamné les dispositifs qui permettent aux États d'accueil de contrôler efficacement le respect des droits des travailleurs qu'elles emploient. Elle a affirmé, dans l'arrêt Viking, que le recours au pavillon de complaisance ressortait du principe de libre établissement. Elle a interdit en principe les grèves contre les délocalisations. Elle a déclaré que les objectifs de protection de pouvoir d'achat des travailleurs ne constituaient pas un motif d'ordre public de nature à justifier une atteinte à la libre prestation de services. Elle a imposé aux partenaires sociaux relevant du secteur public de faire appel au marché de l'assurance pour gérer les systèmes de retraite supplémentaires. Elle a privé de tout effet normatif des dispositions de la Charte de Nice relatives au droit à l'information et à la consultation des travailleurs. Et dernière en date de cette longue litanie de décisions, elle a étendu le champ d'application de la directive détachement à de simples opérations de prêt international de main-d'œuvre, ouvrant ainsi les portes au marchandage du travail humain à l'échelle européenne. Ça, ce dernier arrêt, il date du 18 juin 1995 dans l'affaire C-586-13. Au fond, sa politique jurisprudentielle aujourd'hui se trouve particulièrement bien exprimée dans un arrêt aussi très récent qui était relatif au droit allemand de passation des marchés publics. Le législateur allemand avait étendu aux sous-traitants établis dans un autre État membre l'obligation de respecter le salaire minimum applicable aux entreprises allemandes. Vous voyez l'idée, j'ouvre un marché public, donc les soumissionnaires doivent s'engager à respecter les minima de salaire en Allemagne, et la loi allemande portait cette obligation, s'étend aussi à leurs sous-traitants, même si ces sous-traitants sont établis dans un autre pays que l'Allemagne. Pourquoi la loi allemande fait ça? C'est pour maintenir une concurrence loyale entre des sous-traitants qui auraient été établis en Allemagne ou hors d'Allemagne. Bon. Eh bien, une telle réglementation a été condamnée par la Cour européenne dans son arrêt Bundesdruckerei du 18 septembre 2014, c'est l'affaire 549-13, et elle a été sur la motivation suivante: l'imposition en vertu d'une réglementation nationale d'une rémunération minimale aux sous-traitants d'un soumissionnaire établi dans un État membre autre constitue une charge économique supplémentaire qui peut prohiber, gêner ou rendre moins attrayante, j'aime beaucoup l'adjectif attrayant en matière fiscale et sociale, moins attrayant l'exécution de leurs prestations dans un État membre d'accueil. Une telle mesure pourrait être justifiée par l'objectif de protection des travailleurs. Mais là, on va retrouver le principe de proportionnalité sur lequel nous étions quittés lors du dernier cours de l'année dernière. Et là, évidemment, ça va paraître disproportionné. C'est disproportionné, car ça priverait les sous-traitants établis dans ce dernier État membre de retirer un avantage concurrentiel des différences existant entre les taux de salaire respectifs. Donc là, vous êtes au cœur du, si j'osais dire, du logiciel de la Cour de justice en matière sociale. Il faut préserver la possibilité de tirer tout le parti possible de la concurrence dans le domaine social. Et on ne saurait encourager ainsi plus clairement la course au moins-disant sociale, qui va de pair d'ailleurs avec la course au moins-disant fiscale. Bien, je vous retrouve. J'essaierai de faire une sorte de... Je ne vais pas arrêter au milieu d'une phrase, mais la semaine prochaine, que ce soit un cours un peu conclusif. Donc je vais essayer, parce qu'on ne va pas rester 10 ans sur la justice internationale, sociale internationale, c'est trop déprimant. Donc j'aurai passé à autre chose l'année prochaine, et donc je vais essayer de faire une synthèse. Il y aura peut-être moins d'images pour que je puisse y avoir plus de paroles encore. Merci beaucoup de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.